France Inter.
Aujourd'hui, Jacques Ellul, pionnier de la décroissance, raconté par
Patrick Chastenet, professeur de sciences politiques à l'Université de Bordeaux, président de l'association internationale Jacques Ellul.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Dans l'histoire de l'écologie politique française, il y a des penseurs qu'on cite parfois sans vraiment les avoir lus. Jacques Ellul en fait partie, historien du droit, sociologue, théologien, protestant. Il est surtout connu pour sa critique de la technique et de la propagande. Mais dès les années 30, il pose aussi une question écologique centrale, presque brutale de simplicité, celle de la limite. Une limite choisie, volontaire, humaine, pas une contrainte subie trop tard. Pour Ellul, la technique ne se résume ni aux machines d'hier ni aux gadgets d'aujourd'hui. Il la définit comme la recherche systématique du moyen le plus efficace dans tous les domaines. Et c'est là que, selon lui, se joue une part du drame écologique. Quand l'efficacité devient une valeur suprême, quand tout ce qui peut se faire finit par devoir se faire, la société entière s'organise autour de la performance et l'humain risque de devenir l'instrument de ses instruments. Jacques Ellul était un homme engagé avec des combats très concrets contre le gigantisme des aménagements, contre le bétonnage de la côte aquitaine, attentif aux populations locales, aux usages. Et est-ce que la technocratie maltraite au nom de l'intérêt général ? Il défend le local contre l'arbitraire, les habitants contre l'administration, les petits contre les gros, et toujours avec cette même boussole, limiter la démesure. Alors aujourd'hui, redécouvrir Jacques Ellul, c'est remettre sur la table une critique qui vise le cœur de nos sociétés techno-industrielles et une proposition exigeante, retrouver la liberté en apprenant à nous fixer des limites. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Je suis tout à fait un privilégié. Et ça, je le sais, je le reconnais. Avec les difficultés que suppose une maison ancienne, c'est le privilège du silence, le privilège de l'espace et le privilège pour moi des arbres et de la nature. Ça, alors je ne pourrais absolument pas arriver à vivre dans un appartement en ville. Et ma femme non plus.
La voix de Jacques Ellul, une archive de France Culture en 1985. Bonjour Patrick Chastenet.
Bonjour Mathieu Vidard.
Cette maison, ce coin de nature, c'est Pessac en Gironde ?
Alors, deux coins pour lui. Alors, même s'il a écrit certains de ses livres des fois dans d'autres forêts, la forêt de Coubre notamment, il avait une maison prêtée par des amis, mais il avait deux coins, le canon sur le bassin d'Arcachon, où il avait justement une maison en bois au milieu des pins, et puis il avait sa maison de Pessac qui était vraiment... Alors moi, je n'ai pas vu les oies ou les moutons, mais quand même, c'était extraordinaire. Je pense qu'il avait une chance, il y avait une espèce de petit pont là, un petit ruisseau, il avait des arbres fantastiques, même si la maison n'était pas forcément toujours en bon état. Donc il était quand même en ville, à Pessac, mais au milieu de la nature.
Pas loin de Bordeaux, hein, en l'occurrence.
Absolument, Pessac, près de la fac, près de l'université, d'ailleurs, où il se rendait à pied, ça c'était très important. Ça lui permettait d'ailleurs aussi de voir la disparition des arbres.
On poursuit avec vous dans La Terre au Carré, notre série de portraits sur les grandes figures de l'écologie. Merci d'être avec nous donc, pour parler d'un pionnier de l'écologie politique dont vous perpétuez l'œuvre à travers vos écrits, Patrick Chastenet. Dans quelles circonstances d'abord est-ce que vous l'avez rencontré ? Et comment on décide ensuite d'y consacrer une bonne partie de sa vie quand même ?
C'est l'analyse, parce que c'est psy. C'est vrai d'ailleurs, à un moment donné, je me suis fait vraiment... Puis je sais pas fini, à chaque fois que je dis « bon, il faut en sortir », c'est une rencontre complètement fortuite, parce que j'arrive à Bordeaux, j'ai 18 ans. Ma préoccupation centrale, comme tous les gens, pas tout le monde, mais j'étais assez politisé malgré tout. C'était le coup d'État, parce que je rentre à Bordeaux là, début septembre, c'est le coup d'État au Chili. Je ne connais pas, je ne suis pas protestant, je ne suis pas bordelais. Et puis, l'année d'après, j'ai les cours d'Ellul. Et là, c'est une rencontre encore. Donc là, ça
donc c'est votre
commence.
Prof. C'est votre
ça professeur. Vient de mon prof, un prof en amphi, qui me fait les cours sur philosophie et pensée de Marx. Et donc, c'est dans ma génération, c'est quand même un auteur qu'on lisait beaucoup, si c'était ça, ou d'autres, ou les successeurs de Marx. Et là, sur cette question-là, j'ai vu, je connaissais un Mao à l'époque, mais un Mao stalinien, un marxiste-léniniste, qui a suivi un cours de 50 heures, c'est extraordinaire, ça n'existe plus. Et il me dit, c'est là que j'ai vu ma connaissance de Marx était insuffisante. Il me dit, bon, jusque-là ça va, mais maintenant je ne suis plus du tout d'accord, parce qu'il n'avait plus la même lecture. Ça, c'était le point de départ. Et ça n'a pas encore été, je dirais que ce n'était pas du tout l'entrée par l'écologie à ce moment-là, d'ailleurs, parce qu'il ne faisait d'ailleurs aucun prosélytisme, ni pour le... Et c'est après que j'ai découvert aussi ses sympathies écologistes et ses sympathies anarchistes. Et pour toute une série de raisons, on ne devait pas se rencontrer, et ça a démarré, je suis devenu son assistant, c'était en 78, ou 77-78, son assistant, pas son assistant pour les recherches, parce qu'il n'y en a jamais eu, à part une assistante de fac qui lui avait fait quelques recherches biblio, mais son assistant pour les étudiants californiens, qui venaient, parce que aux États-Unis, il y avait la traduction d'un livre qui en France a eu un succès d'estime pour être gentil, qui est un livre majeur. Ouais. Il s'appelle « La technique ou l'enjeu du siècle » et qui avait été traduit en anglais 10 ans plus tard. Et ce livre a valu un succès d'élus aux États-Unis, surtout en Californie d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et
donc il fait partie de ces Français qui étaient plus connus aux États-Unis qu'en France.
Mais ça a été.
Il y en a eu d'autres, mais il en fait partie.
Quand je ne savais pas terminer ou commencer un article, c'était toujours de ramener à l'histoire de nul n'est prophète en son pays, ça tombe bien, puisque Ellul, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut signaler. Il a 70 livres à son actif. On peut dire, sans faire un décompte précis, que la moitié de son œuvre est une œuvre théologique. Et la notion de limite que vous avez tout à l'heure mentionnée, précisément, elle est centrale. Ça aussi m'a fallu un peu de temps. C'est le point entre les deux. C'est le point de jonction, puisque pour Ellul, il faut limiter la croissance, mais il faut aussi limiter la puissance. Et c'est finalement la clé de voûte de toute son œuvre au sens large. C'est la limite. Et précisément dans le monde dans lequel nous vivons, avec les seigneurs des GAFAM, oui. Les seigneurs de l'intelligence artificielle, le discours, c'est de dire, justement, l'intelligence artificielle va... nous dégager de toute limite, il n'y aura pour seule limite que les limites que nous nous donnerons.
Ouais, alors quand Ellul est mort, donc en 94, il n'était pas question encore d'intelligence artificielle.
Non, du tout.
Mais là, vous l'entendez presque en parler aujourd'hui, Patrick Chastenet.
Je pense que quand il définit les critères de la technique, il retrouve, en donnant les critères majeurs, on retrouve justement ce qui caractérise justement l'intelligence artificielle. Un processus qui va de toute façon, qui s'auto-alimente, qui ne pas rencontrer de limites, qui poursuit la recherche de l'efficacité indépendamment de toute autre considération. C'est-à-dire que là, qu'il puisse y avoir, par exemple, une menace sur les emplois humains, qu'il puisse y avoir une menace sur la planète, à chaque fois, les réponses qui sont apportées, c'est-à-dire là aussi où il a été tout à fait clairvoyant, c'est la question du solutionnisme technologique. C'est-à-dire que dans son analyse, on le voit bien, à chaque fois on a un problème, ce problème, je le fais exprès de le poser en ces termes, on va le transformer en un problème technique, on va le solutionner par une solution technique, ce qui fait que ça va encore augmenter l'emprise de la technique dans nos vies.
C'est ça.
Et je pense que même s'il avait abordé déjà... Et d'ailleurs, c'est très intéressant, votre question, parce que précisément, quand on veut déglinguer Ellul, on dit « Ah oui, mais qu'est-ce qu'il est pessimiste, il n'y a pas... » Complètement faux, c'est un contresens. Mais je vais même vous dire, quand on lit Le système technicien, et qui est précisément le livre que j'ai choisi de placer dans le livre qui s'appelle « Entre technique et liberté », parce que qui résume finalement tout le fil conducteur de sa vie. Il fallait faire un choix entre 70 livres. Bien, précisément, ce qu'on voit, c'est que... il est encore très optimiste. Il dit bien, il y avait un auteur qui était très à la mode à l'époque, un auteur américain qui était journaliste et essayiste du nom de Rorvik, scientifique et qui annonçait une espèce de victoire des machines sur l'homme. Et lui disait non. Et même, il s'est trompé, mais par optimisme, en disant que même les robots ne pourront pas battre, un ordinateur ne va pas battre aux échecs un humain.
Il serait peut-être stupéfait de voir ce que nous vivons aujourd'hui.
Je pense.
On va écouter sa voix, Patrick Chassenet, parce qu'on a beaucoup d'archives à entendre sur la technique précisément. C'était extrait d'une émission de France Culture en août 2025, Avoir raison avec Jacques Ellul, et puis on commente cet extrait juste après.
La technique nous oblige à aller de plus en plus vite et elle va remplacer la réflexion par le réflexe. La réflexion, c'est le fait que quand j'ai fait une expérience, je réfléchis sur cette expérience. Et le réflexe, c'est savoir immédiatement ce qu'il faut faire dans telle circonstance sans réfléchir. Donc la technique demande que l'on ne réfléchisse pas.
Voilà, Jacques Ellul. Alors ensuite, dans cet extrait, il prend l'exemple de la voiture, qui est un exemple assez connu.
Absolument, mais c'est... Oui, là, c'est bon, l'exemple... Alors, honnêtement, je n'ai pas écouté ce son, etc. Pas de problème. Mais sur la voiture, là, on voit bien l'ambivalence, parce que moi, ce qui m'intéresse là-dessus aussi, Ellul, bien évidemment, on n'est pas opposé aux progrès techniques, ce qui serait d'ailleurs absurde, ça n'a pas de sens. Il est opposé à quoi? Il est opposé à, finalement, la sacralisation de la technique. En disant, finalement, c'est pas la technique qui nous a servi, c'est le sacré transféré à la technique. Bon, ça veut dire quoi, justement? Ça veut dire qu'on attend toujours de la technique des solutions magiques. Ce qu'il pointe, lui, c'est que, finalement, tout progrès technique se paie. Il n'y a pas comme ça de progrès gratuit. On perd quelque chose, et c'est quelque chose qui n'est pas pensé. Et parfois, on perd des choses de façon irréversible. Enfin, c'est pas dans cette émission que je peux l'apprendre en matière de biodiversité. Et vous me citez l'automobile. Alors là, c'est pareil. Ça serait mentir que de ne pas, dans nos sociétés, et qui plus est pour les gens qui habitent à la campagne, tout simplement. Et on le voit bien pour un jeune de 18 ans passer son permis, et puis même pour trouver un boulot. Bon, on voit très bien que la voiture est un instrument de liberté, bien évidemment. Sauf que, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on construit des sociétés, je dirais, pour les voitures. C'est-à-dire qu'à partir de là, on est... Donc c'est bien une question de mesure.
Mais je pensais surtout à l'intelligence artificielle encore, en écoutant cet extrait, parce que quand il dit que finalement, on perd la réflexion au profit du réflexe, là on est complètement dans l'IA. C'est-à-dire que d'un point de vue cognitif, l'intelligence artificielle pense pour nous. Finalement, et c'est ça qu'on est en train de perdre aussi, peut-être.
Je crois que là, c'est... Je fais partie de ceux-là, pour le coup. Là, on peut dire là aussi que c'est attendu. Mais non, je pense qu'il y a vraiment une... avec l'intelligence artificielle, et je le vois malheureusement autour de nous, moi, je m'astreins justement
à ne pas l'utiliser.
Et c'est effectivement difficile. Alors, par contre, pour le coup, comme dirait l'autre, parfois, à la suite de mon plein gré, c'est-à-dire, oui, j'ai un téléphone, oui, on n'échappe pas à l'air que l'on respire, et il y a des quantités de gestes où je me retrouve, mais je limite au maximum. Et j'ai dû l'utiliser au moins deux fois pour faire une traduction, justement, pour écrire un des articles, traduction. Et puis, je ne sais plus... Ah ouais, si, ça, c'est d'ailleurs très inquiétant. C'est-à-dire que pour un livre collectif que je dirigeais, j'avais le résumé de chacune des contributions. Et il s'agissait de rédiger 5 lignes de conclusion. À partir, si vous voulez, des 2 pages que j'avais fait. Donc, j'ai rédigé mes 5 lignes tout seul. Et
vous avez comparé à l'IA, et alors, à qui était le meilleur des deux?
Et bien justement, c'est là que c'est ça qui est très inquiétant. C'est-à-dire que, et on finit, et c'est ça qui est terrible, c'était comme moi, je pense que cette IA, pour le dire sur les matières qui nous intéressent, c'est on réinterprète et on le vide de son contenu éthique à partir de la réflexion classique que l'erreur est humaine. On en tire une conclusion absolument fausse, et même scandaleuse d'un point de vue moral, en disant que la machine, elle est parfaite. Et c'est une inversion complète. Et en effet, précisément dans le cas que je viens de citer, eh bien, on en vient à douter. Et on se dit, mais finalement, le résumé qui a été fait là, on ne sait pas trop, sinon on ne parle pas. Il est meilleur, il est meilleur que celui que j'ai fait, moi, avec mes petites mains.
Patrick Chastenay, on fait un tout petit pas de côté avec l'IA, parce qu'évidemment, Jacques Ellul ne l'a pas abordé. Hein. Encore une fois, ça n'existait pas de son
pas
vivant. Mais c'est un prolongement totalement logique
dans
cette pensée de la technique. Hein.
Ah, mais c'est totalement... L'intelligence artificielle, tout ce qu'il dit sur la technique, on peut le conserver. Mm. On peut considérer l'IA comme étant le dernier avatar, pour l'instant, ou la figure suprême de la technique.
Allez, on va se retrouver dans un instant. Patrick Chastenay, autour donc de la figure de Jacques Ellul pour parler écologie également et d'autres aspects peut-être plus étonnants de sa personnalité. Vous êtes notre invité cet après-midi et puis vous répondrez bien sûr aux messages qui arrivent pour vous pour parler de Jacques Ellul sur franceinter.fr et vos messages vocaux sur l'appli Radio France.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au carré.
Je constate que dans les sociétés techniciennes évoluées, les hommes maintenant commencent à être pas seulement inquiets, et pas seulement de la pollution, mais enfin l'inquiétude un peu enfantine, par exemple en face de l'ordinateur, quand les gens commencent à dire « Ah là là, mais les machines vont penser à notre place ». Bien entendu, l'ordinateur ne pense pas. Mais il y a ce sentiment de vague angoisse dans ce monde.
La voix de Jacques Ellul en 1972. Patrick Chastenay, professeur de sciences politiques, vous avez publié beaucoup d'ouvrages autour de la pensée de Jacques Ellul. Vous êtes notre invité. Nous consacrons donc cette émission dans le cadre de nos portraits sur les pionniers de l'écologie à Jacques Ellul. Ce qui frappe quand même, c'est qu'il a pensé à contre-courant, parce qu'on est quand même au début des années 30 avec lui, les années 50, 60, 70. On est en plein dans les 30 glorieuses. Et lui, c'est une des voix les plus critiques de la technique. Donc, c'est-à-dire qu'il rame vraiment par rapport au courant majoritaire.
Il n'a fait que ça. Et d'ailleurs, quand on regarde là, ce qu'il a rédigé avec Bernard Charbonneau, ses directives pour un manifeste personnaliste...
Charbonneau, c'était son grand compagnon
intellectuel.
C'était son
grand ami, hein. Et je dirais que sans Charbonneau, il y a toute une partie de son œuvre qui n'aurait pas existé. D'ailleurs, c'est Charbonneau qui, un jour, Ellul ne savait pas pourquoi, d'ailleurs. Qu'est-ce qui a pu lui plaire? Ils étaient différents de bout en bout, et Charbonneau l'a amené crapahuté en montagne, ils allaient dans
les
Pyrénées.
Qui était le plus écolo des deux, en fait, hein.
D'une certaine façon, chez Charbonneau, il n'y a pas de doute. Je dirais qu'Ellul est méconnu encore, malgré tous nos efforts.
On en parlera,
oui. Et Charbonneau, il est inconnu, à part quelques cercles d'initiés.
Mmh. Bon. Mais ils ont nagé tous les deux à contre-courant ?
Ah, tous les deux.
Dans le grand bassin d'écologie.
Mais tous les deux, et ça a été... Vous savez, Ellul était... C'est une solitude intellectuelle absolument complète. Et ce qui est intéressant, même le texte directif pour un manifeste personnaliste, c'est 35. Or, on parle toujours de la crise de 29. Mais la crise de 29 en France, les effets de cette crise, c'est 1932. Et à partir de 32 en France, là, on y va. C'est-à-dire que vraiment, là, il y a le chômage. Il y a vraiment du chômage. Il y a justement des poches de pauvreté. Et c'est précisément le moment où Ellul et Charbonneau, les deux compères, décident justement de rédiger ce manifeste où il prône, c'est la conclusion, créer une société ascétique pour que l'homme vive, donc c'est aussi la théorie d'une société duale. Certains crèvent parce qu'ils n'ont pas le minimum, et d'autres aussi crèvent d'en avoir trop. Mais, mal rédigé, ils ont 20 ans, là.
Oui, mais c'était quoi? C'était un vrai projet, ça, de créer cette société ascétique?
Absolument, et ça tient la route, parce qu'une grande partie, il y a une critique du malaise dans la ville, il y a une critique, c'est d'actualité, la fatalité de la guerre. Pourquoi? Parce que pour eux, il s'agit de diminuer la puissance de l'État, et justement, renforcer l'échelon local et éventuellement le régional, et puis partir toujours de la base, partir des petits groupes, et à partir de ces petits groupes, et puis une chose qui était tout à fait extraordinaire, qui n'était pas forcément évidente à l'époque, c'était de dire que finalement, contrôler la publicité. Ils avaient une obsession de la publicité, cette publicité qui nous fait... Ça sera plus... Couper ce qu'ils appelaient couper le nerf publicitaire, c'est plus important que n'importe quelle aventure politique. C'est remarquable d'écrire ça en 35, alors que, je le répète, là, la société est déjà en crise. Là, ils sont tout seuls dans cette affaire. Et ils ont continué, c'est-à-dire qu'ils ont mis 40 ans. Alors, c'est seulement au début des années 70 que leur message commence à être un peu audible. Mais juste sur ce point, ce qui est assez dramatique, finalement, pour Ellul, c'est que, bon, en fait, il a eu raison trop tôt. Et maintenant, je dirais qu'il y a une banalisation de son discours qui fait que tout ce qu'il dit est redit par d'autres. Donc, il perd. Donc, il a toujours perdu, d'une certaine façon, parce qu'il était seul à le dire avec Charbonneau. Bien sûr.
Comment il a vécu cette solitude intellectuelle, justement, dont vous parlez? Est-ce que c'était une souffrance? Et comment vous expliquez qu'il ait tenu le coup, qu'il était aussi pugnace?
Lui, je pense d'ailleurs, dans les deux cas, je crois que c'était la famille. Charbonneau l'avait d'ailleurs très très bien verbalisé. Et d'ailleurs, pour Ellul, je crois qu'à partir du moment... Enfin, c'est pas que je crois, c'est que je l'ai vu aussi. À partir du moment où il a perdu sa femme, alors, il avait aussi une... Là, il a un peu laissé filer. Justement, moi, je continue... Enfin, c'était pas du tout... On n'est pas du tout dans une relation comme ça. J'avais toujours des questions à lui poser. Et d'ailleurs, je m'en veux encore, il y a tellement de questions qui sont restées sans réponse, parce que j'y pensais pas, des choses... Je pensais que j'avais toute la vie. C'était quelque chose... Ça passe très vite, finalement. On a fait ça pendant presque 20 ans, et puis avec des arrêts de jeu, si on peut dire. Mais oui, je crois que les dernières années étaient difficiles. On lui refusait des articles dans les journaux que je vais pas citer, ou alors dans les grands journaux bien connus, façon de l'humilier, on mettait un professeur au traité de Pessac, des choses comme ça, des types
alors, il a fait quand même Radioscopie de Jacques Chancel.
Bien évidemment, mais c'est la même époque.
On va en écouter un extrait, 1980, et c'est un extrait au sujet du religieux. C'est une autre des facettes de Jacques Ellul, on va écouter ça.
C'est pas possible pour l'homme de vivre dans un univers glacé comme le monde scientifique et le monde rationnel, le monde technique. Ce n'est pas possible. On a vu en 68 l'explosion de l'irrationnel et ça me paraissait absolument normal, je dirais. Eh bien, maintenant, c'est la suite. On se précipite dans le religieux. Or, il ne faut pas croire que moi, j'en sois extrêmement satisfait. Parce que on se précipite dans le religieux pour toutes les mauvaises raisons, tous les alibis, et qu'au XIXe siècle, Marx ou Nietzsche ont eu parfaitement raison de dénoncer. C'est du religieux pour éviter de voir le réel.
Jacques Ellul, au micro de Jacques Chancel en 1980. Patrick Chassenet, comment il faut comprendre cette intervention là de Jacques Ellul, lui quand même, dont les liens avec la foi chrétienne étaient très forts, de quel religieux est-ce qu'il nous parle alors vraiment?
Je trouve que c'est extraordinaire. Je suis pour rien dans le choix de ces extraits sonores, mais...
C'est Jérôme Boulet, le réalisateur de l'émission, qui les a choisis. Donc.
C'est extraordinaire, parce que ça permet de lever toute une série de malentendus. Et alors, chaque fois, ce que j'entends sur Ellul, oui, mais Ellul, de toute façon, oui, ces trucs... Alors, souvent, en plus, en rajoutant, oui, ces trucs cathos, qu'est-ce qu'on vient faire là-dessus, etc.
Alors, le protestant...
En plus, moi, catho, il est protestant, déjà, ça commence mal.
Le protestant qui critique le religieux, qu'est-ce qu'il critique, alors?
Totalement, parce que Ellul, il est dans une démarche, déjà, de foi individuelle. Moi, je l'ai d'ailleurs bien vu avec moi. Il ne m'a jamais demandé si j'étais d'ailleurs ni marxiste, ni juif, ni catholique, ni protestant. Ce n'était pas le sujet. Mm-hmm. Le religieux, pour lui, justement, et ce religieux, au passage, il peut prendre toutes les formes. Dans ma génération, ça pouvait être des délires d'hindouisme, d'aller en ashram, ou alors prendre la forme précisément du sacré technologique.
C'est ça, la technophilie, finalement.
Mais totalement, à ce point-là. Et là, justement, il pense que ce sont des pensées magiques. Et loin de le satisfaire, je dis bien, en plus, il n'y a aucun prosélytisme derrière, dans ce type de protestantisme, je dirais, réformé à la française. Bien le contraire, si on voudrait trouver, c'est au contraire attaqué sur le côté... on est élu par grâce divine, enfin c'est réservé à une petite élite, on va surtout pas... Bon, c'est tout à fait l'inverse des clichés habituels. Et Ellul, en effet, il ne s'en réjouit pas. Et au passage, sa démarche est spirituelle. Et là aussi, elle n'est pas morale. Ce n'est pas un père moral. À chaque fois qu'il se prononce sur les questions éthiques, d'ailleurs son éthique, c'est l'éthique de la non-puissance. Ce n'est pas justement la réflexion du béni-oui-oui.
Donc il y a de la pudeur, il y a de la pudeur et de l'intimité.
Déjà, il y a de la pudeur. Et puis il y a aussi, la recherche du sens. Ce n'est pas du religieux. Les religieux, ce sont, se tenir bien au chaud, autour d'un dogme, il y a toujours un questionnement. C'est quelqu'un qui vous dit « La Bible n'est pas un livre de réponses, c'est un livre de questions ». Bon, une fois qu'on a ça, on ne peut pas avoir... Ellul n'est pas un dogmatique. Ellul a une pensée dialectique. C'est pour ça, là encore, la technique qui consiste pour lui disqualifier, qui me rend fou, quand c'est des intellectuels, alors soit c'est de l'ignorance, soit c'est vraiment de la malveillance, c'est d'extraire d'un de ses textes un petit bout et de faire dire le contraire. Il faut prendre le temps de le lire et de le lire en entier. C'est une pensée dialectique. Elle est foncièrement dialectique. Si on n'a pas compris ça, il faut changer de métier.
Patrick Chastenay, ces combats écologiques, ils sont très concrets aussi. Hein. Vous disiez tout à l'heure, il croit beaucoup à la force des petits groupes, hein, mais il croit aussi à la force du local. Et c'était son cas, lui, l'homme de la Gironde. Il prend exemple autour de lui. On va écouter une autre archive de 1974 sur l'aménagement de la côte aquitaine à Osgore.
Le tourisme est apparu pendant quelque temps comme une richesse potentielle, mais je crois que du point de vue économique même, c'est contestable. Ça n'est pas véritablement créateur d'emplois, contrairement à ce que l'on dit. Or, on a beaucoup plus d'intérêt à inventer des formes de développement qui permettraient à la fois un développement équilibré sur le plan naturel, d'une part, et qui permettraient le développement de certaines activités qui existent déjà. Les ostréiculteurs ne retrouveront pas des emplois parce que l'on aura créé quelques hôtels.
Jacques Ellul, en 1974, Patrick Chastenay. Alors c'est vrai que ça a été un de ses grands combats, hein, le bétonnage, le tourisme de masse, la destruction des paysages.
Allez, il y a tout, parce que il y a eu ce projet, bon, inutile de revenir dans les détails, mais cette mission interministérielle d'aménagement,
la MIACA
de la côte aquitaine, avait clé en main, là aussi, vu de Paris, considéré qu'il y avait un gisement vert dans le sud-ouest. Donc il y avait quelque chose, il y a un gisement touristique, un gisement vert. Vu d'avion, il y avait en gros entre 200 et 250 kilomètres de côte à bétonner, avec son cortège de marinas, de golfs, de ports, d'hôtels plus ou moins de luxe, de supermarchés, de voies rapides, enfin tout ce qu'on pouvait imaginer. Et évidemment, là, on retrouvait de la technocratie, de la bureaucratie, la centralisation parisienne, du capitalisme immobilier, bref, tout ce qui déplaisait souverainement Ellul. Et alors là, il a créé un comité de un peu de contre-expert, si on peut dire. Ouais. Et pendant 7 ans, avec Charbonneau, ils alternaient la présidence, il a mobilisé le banc et l'arrière-banc. Alors, il y avait, c'était très hétéroclite. Il y avait des occitanistes, donc des régionalistes, il y avait des gauchistes, il y avait les habitants locaux qui voulaient pas de ça. Il y avait donc les écolos, parce que là, la période...
Années 70, là.
Années 70. Ah, ouais. Et il avait, alors, il y avait le grand quotidien régional sud-ouest. Là, il y avait les deux. Il y avait, au sein même de la rédaction, il y avait une bagarre.
Voilà. Et ils ont gagné ou pas, alors?
Alors, moi, je dirais... Oui, alors, il se trouve que, parce qu'il en a perdu, Ellul, des combats, il en a beaucoup, beaucoup perdu. Il faut bien garder à l'esprit, et je vais juste revenir là-dessus, ses livres, d'une certaine façon, et, alors Charbonneau s'est encore plus développé, sont finalement, pour lui, un peu la preuve de son échec. Il n'a jamais, c'est pas un philosophe qui écrit pour créer un système de pensée clos, ça, c'est, il veut changer les choses. C'est donc, d'une certaine façon...
Donc c'est pas que de la théorie.
Et non, surtout pas. Et là, il était tout à fond dans ce combat. Et en effet, ils ont gagné. Mais en réalité, moi, je dirais qu'il y a eu les effets de la crise. Ça manque. Il y a eu des fonds qui ne sont pas venus. Et donc là, oui, on peut dire que globalement, ça ne s'est pas fait. Et je dirais fort heureusement.
Ouais, donc, eh bien, toutes les personnes qui habitent cette région peuvent avoir une petite pensée pour Jacques Ellul en regardant encore des coins de nature, mine de rien, qui existent encore.
Je peux vous dire qu'il y a un certain
nombre... Et qui ont échappé à la pression du technocapitalisme.
Il y a un certain nombre de comités là, avec lesquels je suis en relation. Et justement, je les ai même des fois mis en boîte. Je dis, mais oh, la photo, là, vous pourriez peut-être m'en parler avant de la prendre, si vous prenez des photos. Et ils se réclament encore d'Ellul. Ça, c'est bien. Ça me fait toujours plaisir. Bon. Et non, vraiment, là, il y a eu un microclimat. Il y a une chose qu'il disait dans le son là, qu'on a entendu tout à l'heure qui m'a beaucoup plu, et c'est d'actualité pour nous en Gironde, et c'est d'actualité pour tout le monde. Il ne faut pas oublier, lui, ce qu'il disait, il l'a dit de façon tout à fait incidemment, notamment sur la forêt. Il voulait que... Mais il disait, c'est un choix politique, volontariste. Il faut qu'on repeuple les forêts. Il faut inciter. Pourquoi ? Parce tout simplement aussi parce que les forestiers, les gemmeurs, ils sont là, c'est les meilleurs. C'est pas les canadaires, c'est pas la technique. C'est les meilleurs pompiers. C'est-à-dire qu'ils vivent toute l'année dans la forêt. En tout cas, une partie, ils ont... Évidemment, ils sont pas tous en train de dormir 24 heures sur 24. Mais la forêt était habitée. Ça n'a pas été fait. Résultat, il y a 3 ans, C'est 30 000 hectares de brûlés.
C'est ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce qu'il aurait pensé en voyant sa région Aquitaine sous les flammes
30 000 hectares.
Jusqu'à la dune du Pilat, donc le bassin d'Arcachon. 30 000 hectares, c'est sans précédent. Hein.
C'est sans précédent. Précisément, tous les coins qu'il adorait, c'est les coins où il faisait du canoë, là, enfin, tous ces coins. Bon. Et ça, alors là, pour le coup, moi, j'y ai vu le signe sans être, évidemment, monomaniaque, toujours ramené à Ellul. Mais je rappelle ses articles quand il disait, alors, il a retourné le proverbe, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il lui disait, c'est la forêt qui cache l'arbre. Il disait, mais qu'est-ce qu'on fait? On plante comme des asperges en rang, là, parce que comme ça permet de faire passer les machines, des résineux. Mais les résineux, déjà, ça donne peu d'oxygène, et puis ça brûle, et ça brûle vite. Mmh. Pourquoi pas mettre un peu de feuillus? Pourquoi aussi pas mettre des chênes? Pourquoi? Ah ben non, parce que c'est pour en faire de la pâte à papier.
C'était un critique de la monoculture?
Bien évidemment. Mmh. C'était surtout quelqu'un qui voulait justement petit, et donc ça veut dire des petites exploitations et pas des...
Et de la diversité.
La diversité, de la polyculture, mais totalement là-dessus.
Patrick Chassenet.
Pas d'engrais.
On va entendre un autre Aquitain, c'est Noël Mamère, le journaliste Noël Mamère, en 1980, sur Antenne 2, dans Midi Lettres Ouvertes.
C'est ici, à Pessac, dans le calme et la verdure, que Jacques Ellul écrit. Chaque jour, il s'installe à sa table de travail dès 6 heures du matin et suit ce rythme immuable depuis plus de 30 années. Jacques Ellul, théologien, philosophe et sociologue. Une œuvre marquée par plus de 30 ouvrages parmi les plus importants, La technique ou l'enjeu du siècle, L'illusion politique ou De la révolution aux révoltes. Autant d'écrits qui ont beaucoup marqué outre-Atlantique, mais qui sont moins connus dans notre pays.
Voilà, Noël Mamère, hein, qui rappelle ce que vous nous disiez tout à l'heure, Patrick Chastenet, au sujet de Jacques Ellul, qui a eu très peu d'audience en France de son vivant. Est-ce que, quand même, vous voyez un regain d'intérêt pour son œuvre, là, aujourd'hui?
Oui, je crois, de façon considérable. C'est-à-dire qu'il est, et ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il est, je dirais, cité, et puis, surtout, lu.
On
le voit dans tous les mouvements qui se mobilisent contre des projets non justifiés.
À 69.
La 69 en est un bel exemple. L'usine, la ferme usine de saumon là, dans le Médoc, même chose. La LGV également. Et après, dans des associations, CEPENSO, Société d'études protection de la nature et du Sud-Ouest. Et puis également dans les militants dits radicaux, comme les soulèvements de la terre, où Ellul et Charbonneau sont des auteurs qui sont lus. Là, j'ai eu des retours. Et puis, alors, dans les milieux chrétiens non classiques, c'est-à-dire qu'il y a des chrétiens par exemple, qu'on peut retrouver dans la revue Le Cri, hein, qui a pris une certaine façon la suite de la revue Limite, mais avec une orientation quand même plus, je dirais, plus à gauche, hein, clairement plus à gauche, le journal La Décroissance, puis toute la presse. Alors, donc, ça veut dire des lecteurs, des anards non dogmatiques, puisqu'il y a bien le problème chez Ellul, il ne faut pas oublier que c'est aussi l'auteur d'Anarchie et Christianisme. Le problème, évidemment, pour les deux côtés, c'est pour les dogmatiques, c'est de dire quand on est chrétien, on n'est pas anarchiste, et quand on est anarchiste, on ne peut pas être chrétien.
Mais sur son statut, parce que certains parlent d'icône écologique aujourd'hui, il y a des historiens comme François Jarrys qui prononcent cette expression. Est-ce que ça lui aurait plu à Jacques Ellul?
Non, mais en même temps, il aurait souri, parce qu'il était comme ça, il aurait souri, c'était quelqu'un de bienveillant. En même temps, je pense que c'est une icône. Non,
il n'aurait pas boudé son plaisir quand même après ces années de solitude. Hein.
Mais exactement, parce que cette solitude complète, quoi, j'insiste, je le redis, ça n'a pas été facile. Mm. Et bon, je ne vous cache pas que la première fois que j'avais entendu ce mot, ça m'avait fait drôle, mais je l'ai repris, parce que je trouve que il y a quelque chose presque de pervers d'associer Ellul à une icône, alors que c'est l'homme de la parole humiliée, c'est-à-dire qu'il a critiqué beaucoup déjà la télévision, le poids de l'image. Le poids de l'image. On parle beaucoup encore de la fascination pour les écrans. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est même plus que 2h30. Enfin, si on cumule les écrans, eh bien, on sait que les gosses, c'est 4h. Et puis que dès 2 ans, ils attrapent le portable des parents. Et ça, c'est l'homme fasciné par la technique.
Et puis, on pense à l'icône religieuse, quand même, aussi.
Et voilà, et c'est précisément le coup d'icône religieuse. Et justement, on peut dire que Ellul est un briseur d'idoles et que les icônes, bah justement, il est iconoclaste.
Patrick Chastenay, qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui? Quel type d'héritage il nous laisse, pour ceux qui s'intéressent à l'écologie politique aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut retenir s'il fallait faire une synthèse vraiment de... Vous avez déjà abordé plusieurs choses intéressantes tout à l'heure. Hein. S'il fallait condenser tout ça, nous faire un petit résumé.
Oh là là, quel enjeu, le résumé. Bon, on a gardé le contre-courant. On a l'idée aussi, en effet, c'est pas les mots d'Ellul, mais c'est l'idée que j'ai employée, de ne pas devenir l'instrument de ces instruments. C'est la limite, c'est toujours rappeler la limite, c'est toujours se dire que si l'homme dans nos sociétés n'est plus la mesure de toute chose, eh bien on est dans une société de la démesure. C'est toujours rappeler ses préoccupations, c'est savoir que tous les progrès ont un prix à payer, et je crois qu'il avait une formule que l'homme ne se rend pas compte du prix justement de la puissance, et pour les chrétiens notamment, rappeler que... Et alors, un truc qui est aussi, pardon pour le truc, mais un point intéressant, il a retourné l'accusation, notamment de Lynn White, sur la responsabilité du christianisme dans la crise écologique. Lui, il inverse le raisonnement en disant, mais en réalité, c'est pas parce que les hommes respectent les principes de la Bible qui détruisent la nature, c'est précisément l'inverse. C'est parce que les hommes ont rompu avec le Créateur que justement, ils se sont autorisés à détruire la nature. Or, lui, il dit d'un point de vue biblique, et là, il y a une mésinterprétation, il y a un contresens sur le sens de la Genèse qui est toujours cité, c'est-à-dire qu'en réalité, d'un point de vue biblique, l'homme, il n'est que le jardinier de la terre. Il doit en prendre soin. Il ne doit pas la saccager, il ne doit pas la polluer, il ne doit pas la détruire, il ne doit pas l'exploiter jusqu'à plus soif. C'est une mésinterprétation complète de la Bible.
Patrick Chastenay, avant de répondre aux questions des auditeurs, on va écouter une dernière fois la voix de Jacques Ellul. C'était en 1980, toujours dans Antenne 2 Midi, lettre ouverte à l'an 2000.
La société n'est invivable que dans la mesure où elle est de plus en plus exigeante et où elle suppose une véritable prise de possession de la totalité de l'homme. Depuis 1930, avec certains amis et le mouvement Esprit, etc., on voyait ce qui allait arriver, on a averti, on a fait tout ce que l'on a pu. C'est impossible d'arrêter un mouvement de ce genre. C'est ça qui est inquiétant, c'est d'être en présence d'un mouvement comme le développement de la technique et de la science sur laquelle nous n'avons aucune prise.
Voilà, pour résumer précisément.
Oui, il le fait beaucoup mieux que moi. C'est-à-dire que c'est effectivement ça, il n'y a plus de prise, c'est qu'il n'y a plus de contrôle.
Allez, on passe aux questions des auditeurs et auditrices. Patrick Chastenay, Marcelin nous envoie ce petit message pour vous demander si Ellul est un héritier d'Élisée Reclus. Vous y avez répondu en début d'émission.
Magnifique, magnifique. Totalement, et Charbonneau l'est encore plus, c'est tout à fait cette inspiration, d'ailleurs avec une petite pointe de protestantisme que, en réalité, Élisée Reclus n'a jamais réussi à éliminer, alors qu'il voulait justement s'en
se
défaire.
Se détacher de son père.
Exactement de cette éducation. Il est totalement, ils sont proches tous les deux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai fait justement un livre le plus personnel, qui était Les Racines libertaires de l'écologie politique. Ils sont comme deux frères.
Ouais, ben justement, on renvoie aussi à une terre au carré qu'on a consacrée à Élisée Reclus, toujours dans le cadre de ces portraits des grands écologistes, pas de notre époque, parce que Élisée Reclus, c'est le siècle précédent. Bérangère nous dit, merci à la terre au carré de me faire découvrir qui était le Ellul qui a donné son nom à l'un des amphis dans lequel j'étais assise à l'université de Bordeaux.
Oh bah oui, quand même. Qui est venu tardivement, ça dépend si elle était à Sciences Po ou si elle était à la fac de droit.
Ouais.
Parce que ça a été aussi de rudes combats.
Michel nous dit, la pensée d'Ellul fait penser à la convivialité d'Ivan Illich. Ah, la technique est conviviale quand on la limite pour qu'elle reste au service de l'individu et de sa liberté. Ah, ça veut dire qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose alors.
Ah mais ça c'est parfait. Mais bien sûr qu'il y a un moyen de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que là, et ça en effet pareil, Illich, c'est le flop des cinq. Au passage, Illich est le seul à vraiment vivant, d'ailleurs il était venu au colloque que nous avions organisé là en 92, c'est le seul qui explicitement, d'ailleurs il l'appelait Maître Jacques pour son allocution là,
ouais.
Qui rendait effectivement hommage à Jacques Ellul. Là la parenté est extrême, ils sont là aussi proches, hein, bien évidemment, ça c'est,
ouais.
Là je salue l'intelligence des auditeurs là,
Michel, voilà, qui nous ont envoyé ce message.
Ça, le lien est complet, il est reclus, ouais. Ilitch, on est en famille.
Donc il faut faire aussi une terre au carré sur Ivan Ilitch, hein, et sur Charbonneau.
Sur Charbonneau.
Pour Ilitch est très
connu. Ilitch a été très connu. Le problème, Charbonneau, c'est dramatique parce que le premier écolo, franchement, en France, c'est lui, quoi. Ça, je le dis.
Le plus méconnu aussi, probablement.
Ah,
hein.
C'est le plus méconnu. Mmh. Alors lui, c'est vraiment là. C'est un cercle d'initiés, quoi. C'est une secte. Et pourtant, qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est bien écrit. C'est comme Reclus. Les textes de Reclus, j'ai pris le train avec un livre de Reclus d'extraits, et c'est magnifique. C'est
ouais.
Et la langue de Charbonneau, elle est très très belle. J'ai essayé de la copier, là, au sens pour le faire revivre.
Ouais.
C'est magnifique.
Je bondis en entendant votre invité, nous dit Alexandre, dire qu'il a utilisé l'IA pour une traduction. N'utilisez pas l'intelligence artificielle pour traduire. Il y a des centaines de traducteurs qualifiés et compétents qui feront toujours le travail bien mieux que cette machine. Ne nous mettez pas au chômage et choisissez la qualité.
Mais alors, qu'est-ce qu'il a raison. D'abord, j'ai un nombre de mes anciennes étudiantes qui font ce beau métier. C'est le plus grand. Non, je peux le rassurer. J'ai fait ça, c'était pour retirer deux lignes. Une vraie traduction, vous pouvez être sûr que je refuse. C'était deux lignes pour un article, justement, dans la revue La Décroissance, parce que d'ailleurs, parmi les héritiers, il y a le journal La Décroissance. Je suis à 100% avec lui, là. Ah ben, bien évidemment, non.
Didier nous dit bonjour La Terre au Carré, on espère que vous n'oublierez pas André Gorce dans votre rétrospective. Mais c'est fait, déjà.
Il y a du retard à l'allumage. Hein.
Non, on a déjà fait une.
Oui, je sais, c'est ce que je dis.
Un des grands penseurs de l'écologie politique.
Oui.
Et donc, voilà. Il nous faut aussi des portraits de femmes parce qu'on a Françoise Dobonne en France.
Oui, c'est ça.
Il y a Rachel Carson pour les Américains. Mais quelles sont les autres grandes figures féminines, à votre avis?
Non, mais Françoise Dobonne, et celle-là, c'est par manque de. D'abord, parce que j'avais une étudiante en thèse qui avait le sujet. On en avait beaucoup discuté avant. Dans mon club des cinq, on leur était bien isolée, mais évidemment, elle était à la fois écologiste, féministe et libertaire. C'est ce que je voulais.
Est-ce qu'il y en a d'autres?
Là, je serais embêté pour celles qui ont les trois caractéristiques. Je serais bien embêté. Rachel Carson, elle est loin d'être libertaire. Elle n'était pas libertaire. Par contre, elle a eu un combat admirable.
Ouais.
Après, trouver Yannès, il y en a. Alors, Simone Veil a quelque chose, la philosophe Simone Veil a une dimension quand même, mais c'est le travail plutôt qui est au centre de sa pensée.
On termine avec Nicole de Bordeaux. Of course, dit-elle dans son message, quel plaisir de réentendre Ellul. J'ai participé au cours d'Ellul dans cet amphi enfumé, bondé dans les années 70-71, je crois. Quel enthousiasme nous avions tous, dit-elle. Voilà, c'est
on était peut-être en. Là, la fumée, là.
Et on pouvait fumer à l'époque dans les amphis. Merci beaucoup, Patrick Chastenet. Je renvoie à plusieurs ouvrages. Introduction à Jacques Ellul, ça, c'est aux éditions de La Découverte. Et puis plus récemment, Entre technique et liberté, c'est un recueil de 4 essais pour s'initier à la pensée de Jacques Ellul que vous signez chez Bouquin. Merci beaucoup d'être venu au micro de La Terre au Carré. Merci beaucoup à Lucie Sarfati, Anne-Laure Cochet à la technique, Jérôme Boulet qui réalisait cette émission.